Blue Mars.
Les abyssales.
Les abyssales. L'invité des abyssales.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans l'invité des abyssales pour ce second numéro que j'ai l'honneur toujours de présenter avec mon cher Jay. Salut Jay.
Salut Redscape et bonsoir à tous et merci d'écouter ce supplément à la 18e émission des abyssales.
C'est même plus un supplément au final. Hein.
C'est carrément
une émission à part entière.
Voilà.
On ne suit même pas la numérotation. Donc voilà. Donc pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre 2015, vous avez sans doute peut-être écouté déjà la 18e émission. On vous propose pour ce second numéro de l'invité. La présence de quelqu'un que peut-être que vous connaissez ou vous connaissez pas, ça dépend dans quel milieu vous évoluez naturellement, puisqu'on a l'honneur d'accueillir Milty, en tout cas on va l'appeler comme ça, parce que je dois vous dire que dans le podcast des abyssales normal que vous avez l'habitude d'écouter, je me suis vraiment emmêlé les pinceaux, je ne savais vraiment pas comment le nommer, donc normalement il s'appelle Milty. Milty, bonsoir à toi.
Bonsoir Jay, bonsoir Redscape, et bonsoir à tous.
comment vas-tu?
Très bien, je suis très heureux d'être présent ici. Mm-hmm. J'avais écouté déjà la première et donc je suis assez étonné déjà de base d'être invité, donc ça me fait très plaisir.
Et puis surtout, tu nous as amené de la musique électronique, hein, parce que c'est un peu ça la base de cette émission.
Évidemment, je pouvais pas venir les 20 vides.
T'aurais pu apporter le vin quand même.
Oui, effectivement, et là malheureusement...
Ouais, franchement, t'abuses. Hein.
Malheureusement, là, ce que j'ai entre les mains, c'est un verre d'eau.
Ah non.
Eh non, oui, c'est un peu la honte.
Un peu, ouais. Je trouve aussi. Donc, avant de parler musique électronique et donc d'aborder ces morceaux, déjà, présente-toi un peu qui tu es. Alors, pour les auditeurs donc, qui ne le savent pas, t'es quelqu'un qui fait de la saga MP3, hein, puisque, et t'es musicien aussi d'ailleurs. J'ai découvert ça en regardant l'excellent wiki du Netophonics. De toute façon, il n'y a que ça comme source en même temps, donc... ça tombe bien.
Wiki qui n'est d'ailleurs pour ma part le wiki n'a été que sur moi a été créé il y a pas très longtemps.
Ah d'accord.
C'est okay. Quelqu'un qui m'a dit tiens tu n'as pas ton article sur le wiki et a commencé à mettre des choses. Alors c'est pas complet, faudrait que je passe faire des corrections dessus mais.
Ouais, ce qui manque des liens notamment pour écouter éventuellement. Alors bon déjà tu vas te présenter déjà. Alors, qui es-tu exactement et voilà tout simplement. Dis-nous tout.
Eh bien, du coup, mon pseudo sur Internet, c'est Mitty, majoritairement. Après, je publie régulièrement sous mon vrai nom, qui est Simon Bigot. Donc, en fait, moi, à la base, c'est vrai que je suis... Alors, je suis plus musicien que créateur de son MP3. Par le fait que j'ai commencé par ça, en fait. J'ai commencé par la musique. J'ai une formation de synthétiseur à l'origine, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc en fait, je suis le jour, je suis une personne classique qui travaille actuellement en milieu scolaire, qui se destine à faire quelque chose dans le monde de l'audiovisuel, dans la sonorisation, dans le sonore en général.
Alors, qu'est-ce que t'appelles milieu scolaire? Tu es professeur ou
C'est un petit peu compliqué. Je fais ce qu'on appelle un service civique.
Ah d'accord, ok.
D'accord. Mais en fait, je fais de l'animation dans un lycée spécialisé,
d'accord,
entre guillemets. Okay, ouais. C'est assez compliqué à expliquer en soi.
Tu formes quel type d'étudiants, des BTS
Je fais pas de la formation en fait. Je travaille avec des élèves en décrochage scolaire. Ah. Et je suis là en fait pour leur préparer des ateliers, des trucs autour de la culture.
Oh, c'est bien ça.
Effectivement, ouais, j'ai commencé la semaine dernière et ça me plaît beaucoup.
Ouais, c'est cool.
Et je fais ça entre deux deux séquences d'études en fait, parce que je voudrais intégrer des écoles de son après, mais ça a un coût. Malheureusement.
Ouais, c'est très cher. Ouais, c'est extrêmement cher. Je me rappelle de la note que j'avais, parce que j'avais voulu en faire quand j'avais 18 ou 19 ans. Et effectivement, quand j'ai adressé la note à mes parents, tout de suite, non. Ça ne l'a pas fait du tout.
Ouais. Donc, c'est pour ça que je travaille actuellement, en fait.
D'accord. Parce que service civique, je crois que c'est 500 et quelques euros par mois.
C'est 573 euros par mois, sauf exception, parce qu'on peut avoir des bonus vis-à-vis de certaines situations. Par exemple, si on est boursier, ce genre de choses.
D'accord. Okay. Et audiovisuel, ou plus l'audio ou,
En général, je dis audiovisuel parce que je ne me suis pas vraiment forgé de limite. Enfin, dans tous les cas, c'est dans l'audio. Moi, c'est vraiment l'audio pur. Après, quand je dis audiovisuel, c'est que ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être la télévision éventuellement, même si c'est ce qui m'attire le moins. C'est très large. Enfin, j'ai eu l'occasion déjà de toucher un peu la radio et la télévision.
D'accord.
De façon très locale.
D'accord, ok. Mais c'est pas quelque chose qui te plaît justement Parce que moi, quand j'entends audiovisuel, j'entends surtout radio ou télévision d'ailleurs.
La radio, c'est intéressant. Après. Voilà, enfin, ça, d'un point de vue technique, c'est très routinier, d'après ce que j'ai compris, j'ai pu voir, découvrir du domaine, forcément. Après, ouais, la radio, c'est intéressant. La télévision, ça m'intéresse peut-être un peu moins, même s'il y a beaucoup d'aspects qui sont intéressants, notamment au niveau de l'organisation, surtout quand il s'agit de couvrir un événement. Mais c'est vrai qu'après, mon premier amour, c'est plutôt le son cinéma, le côté sound design. Voire même aussi le jeu vidéo. Récemment, je me suis plus intéressé au jeu vidéo et ça peut être aussi une voix au niveau sonore, tant au niveau musique que sound design qui m'intéresserait aussi.
D'accord, ok. Et donc, par rapport à ça, donc au niveau de tes projets, tu as fait quelques. Alors, tu as fait un mono MP3 en principal et puis tu as fait quelques réalisations sonores, ça et là, en fait.
Ça, donc, en fait, la nuit, je me prends pour un androïde caché parmi la ville, parmi la population, comme ma bio Twitter peut l'indiquer. Ouais. Ouais. Et, alors, effectivement, d'origine, ouais, j'ai majoritairement fait de la musique. Alors, d'abord, pour moi, dans mon coin, j'ai appris d'abord à composer. Ce que j'ai appris au fur et à mesure avec le temps, hein, c'est quand on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, moi c'est totalement ça. Je suis parti de juste une petite formation que j'avais au synthétiseur en associatif et j'ai découvert en fait la MAO et j'ai bidouillé, je postais jamais rien et puis au bout d'un temps, je commençais à me débrouiller et j'ai commencé à poster un petit peu sur internet des petites choses. Et donc j'ai un SoundCloud du coup où je poste de façon totalement irrégulière des choses. Et je suis aussi du coup mon évolution s'est faite aussi via le forum du Netophonics aussi, donc qui rassemble des amateurs en création audio, donc type Saga MP3. Et c'est aussi quelque chose. C'est un peu la rencontre du Netophonics qui a fait le déclic en fait du sonore chez moi. D'accord. Parce que je faisais du synthé, mais c'était vraiment quelque chose à côté. Je saurais même pas dire pourquoi j'ai commencé le synthé à l'origine en fait. C'est juste.
T'aurais pu commencer la guitare, le piano ou n'importe quoi.
Exactement en fait. Ouais, c'est juste que le synthé, ça m'intéressait. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait faire plein de sons rigolos. On pouvait jouer un peu de tout. C'était sympa. Mm-hmm. Et puis ça se rapprochait du côté piano, mais en plus fun, en moins strict.
Ouais. disons que si tu veux faire tes gammes, déjà tu peux les faire, mais en faisant des sons complètement.
Avec un son d'accordéon.
C'est ça, oui, tout à fait.
C'est rigolo.
On pouvait jouer. Et je crois que j'ai déjà fait un concert en associatif avec un son d'accordéon sur un morceau. c'était assez sympathique. Et donc en fait, ouais, quand j'ai découvert le monde des Sega MP3, j'ai trouvé ça absolument génial. Pour moi, c'était un peu une révélation. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ça alors qu'on était en voiture. Il m'a fait écouter une Sega MP3 qui s'appelle Matrix la Matruque, qui est une parodie de Matrix.
C'est le fondateur de Netophonix qui, a, qui a fait cette, cette saga. Alors,
c'est ce que j'allais dire, justement.
C'est Mitch DSM, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, d'accord. Donc j'ai bien retenu la leçon. Okay.
C'est, ouais, donc c'est une saga créée donc par Mitch qui a créé ensuite le forum du Netophonix, justement pour rassembler les amateurs.
Qui est un peu la légende de la saga MP3, hein, d'après ce que j'ai entendu parler. En tout cas, dans le, dans le milieu francophone.
Il fait partie un peu de la légende avec Pen of Chaos pour le Donjon d'Elbeuk, oui, et puis la grosse influence des 2 minutes du peuple aussi, qui a été, qui a été très, très décisive aussi là-dessus. Et donc, moi, j'avais suivi un peu le forum, je me suis inscrit, et puis j'écoutais plus qu'autre chose. L'idée de créer me venait un peu, mais j'avais pas la technique, malheureusement. Et du coup, bah, je me suis dit, moi, je fais des petites musiques. Du coup, j'ai commencé un peu à en poster dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais de la musique un petit peu en indépendant, mais de façon totalement irrégulière pour le coup. Et par contre, de façon un peu plus intensive, je suis lié à plusieurs projets de fiction audio où je fais la bande originale.
D'accord.
Notamment, AJ, là ça te rejoint, je travaille avec Cédric Chalvet, donc, alias Latnel, qui fait partie du collectif Audiodramax, dont Jay tu fais partie.
Ah,
c'est ça.
Et sur la, la série Atlantide, dont je signe donc la, la bande originale et certaines parties de sound design.
Ok. Bah, il faut que je l'écoute aussi, celle-ci. Du coup,
il faut l'écouter, c'est très bien.
J'en ai tellement plein à écouter que du...
Ah oui, t'as du boulot là pour le coup.
J'ai beaucoup de boulot parce que je vous ai tous à peu près découvert il y a peut-être un an de ça. Je ne connaissais personne, donc je ne sais même pas par qui ça a vraiment débuté d'ailleurs. Je me demande si c'est pas, je me demande si c'est pas François TJP, la, la base en fait. La Terre éclata. Je crois que c'est de... ouais, je crois que c'est à partir de ça que j'ai commencé à vraiment écouter et à m'intéresser au, au, au milieu. Mais ou par le Netophonix ou je crois que c'était j'ai dit une bêtise. En fait, non, c'est par Corben qui avait fait un article sur Audiodramax.
Oui, sur de la buée sur Andromède 6.
Voilà, exact. C'est ça exactement. Exact. Et je l'avais mis en favori et j'ai ressorti l'article. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai pas écouté tout de suite les monos de donc mais si c'était Antoine Rouault pour Eden. Oui, c'est ça. Eden.
Oui oui, c'est Eden. Ça.
Oui, oui, c'est ça. Oui. Décidément pour Eden et oui, ensuite effectivement, il y a eu François TJP avec La Terre éclata et puis ainsi de suite, je commence à en avoir quand même pas mal à écouter. Donc j'ai écouté la tienne, hein, Statique d'ailleurs, parce que bah te connaissant pas avant, du coup, je me suis intéressé quand même à ce que tu faisais. Et c'était assez prenant, c'est dommage du coup que ça soit un mono quoi. 16 minutes, bon.
Ouais, effectivement, ouais.
Ah,
ouais.
C'est un peu court du coup.
Sachant qu'en plus, ce mono a une histoire un peu chaotique. Jusqu'ici, c'est la seule réalisation du coup que j'ai. Enfin, j'ai fait 2-3 petites choses avant, mais c'était plus des exercices, des trucs un peu fun, pas très sérieux. Et pour certaines, un peu ratés. Et ça, c'était ma vraie production sérieuse, où j'avais mis toutes mes tripes dedans, et qui pourtant a un mixage chaotique, et les gens me disent que c'est quand même bien.
Ah non, c'est bien. Franchement, là, par exemple, je suis en train d'écouter comment dire, les monos MP3 là, du calendrier de l'Avent, là, de...
Ouais, les calendriers de l'avant de pour MP3.
De Netophonix. Bon, voilà, quand même, ce sont des choses qui sont parfois un peu au-dessus. Bon, c'est vrai que les qualités ne se valent pas, mais disons qu'on est quand même sur quelque chose. En tout cas, moi j'étais assez surpris, personnellement. Voilà. Et puis j'ai écouté aussi un truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est le jeu de mixage bande-annonce en 2011 de Johnny Babrioli, qui moi m'a personnellement beaucoup fait marrer. Parce que franchement, voilà, c'était, je suis fan de ce genre de choses là, quoi. Le fait d'avoir des grosses bandes annonces avec des grosses voix, tu vois, des trucs comme ça là, tu vois. Voilà, c'est Johnny Babrioli. Et franchement, moi, j'ai vraiment un gros regret du coup de pas vous avoir connu bien avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont fait avant, et que du coup aujourd'hui, c'est pas qu'il y a plus rien, mais bon, on va dire que voilà, il y a pas une sorte d'âge d'or, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être arrivé après la bataille au final.
Bah, il y a des choses. Le côté âge d'or, c'est quelque chose qui revient régulièrement en ce moment.
Ah d'accord, ok, bah, j'ai pas fait exprès. Hein.
Non, mais il y a certaines personnes qui disent ça de façon un peu rigolote, mais ouais. Disons que oui, les périodes sont quand même assez démarquées. Il y a une période où il y avait énormément de création, ouais. et aujourd'hui, la qualité tend vers le haut en général, ou du moins
le besoin
de qualité.
Ouais. C'est qu'il y a eu, je pense aussi, surtout une démocratisation des moyens techniques.
Oui, tout à fait. Ouais.
D'avoir des choses presque de qualité. Enfin, c'est pas presque, hein, c'est de qualité professionnelle. Hein, parce que je vois par exemple un Reaper qui peut être utilisé dans des studios. Tu parlais de jeux vidéo justement tout à l'heure. Il y a un jeu vidéo. Je crois que c'est Ubisoft qui utilise Reaper carrément pour ses jeux.
Pour ses derniers jeux, ils ont utilisé Reaper. Ouais.
Voilà, ah, donc, d'accord, je savais.
On parle pas des grosses licences type Assassin's Creed, tout ça, mais.
Ouais, non, plus des petites licences.
Il y a une démocratisation du coup, on peut faire des choses de qualité plus professionnelle, presque approchant le professionnel sans avoir beaucoup de matos. Et il y a peut-être aussi le fait de, on veut plus sortir un truc bâclé, mal mixé, machin, et avoir vraiment quelque chose qui tienne la route, qui soit cohérent jusqu'au bout. Et je pense que c'est peut-être pour ça que du coup il y a peut-être moins de choses ou alors qui sortent, ou alors qui soient pas de la même qualité qu'avant. Après c'est un avis personnel. Je sais pas.
Non, mais c'est totalement justifié. Et puis il y a le côté du fait que les personnes qui avaient débuté aussi à une certaine époque, justement, ont amélioré leur qualité au fur et à mesure, ouais. Se sont formées et aujourd'hui ils veulent faire quelque chose de bien. Mais il y a le fait que la vie réelle, malheureusement, prend parfois le dessus.
Oui.
C'est ça. Et en fait, les sorties prennent du temps, quoi. Ouais. Enfin, ça a été le cas, notamment pour moi aussi. Mais
on attend toujours Red Look. Hein.
Ça arrive.
Alors, je te chante, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Il y a toute une histoire à avoir derrière et bon, ça peut être quand même rapidement compliqué.
Oh, et puis on a tous notre petite arlésienne. Moi, c'est la BO de Static, moi qui devait être sortie normalement juste après le mono et qui n'est toujours pas sortie malheureusement. Le pire, c'est que les gens me disent toujours hey, t'as pas un vrai lien pour Static, mais en réalité, il y a un site qui est prêt. Qui a été fait dans mon dos, d'ailleurs, c'est la personne qui m'a dit « Bah écoute, le site, il est prêt, en fait, on attend juste la BO pour qu'on puisse tout sortir d'un coup. » Et je fais « Oui, il faut que je la mixe, en fait. » Parce que le mixage qui a été utilisé pour la BO dans le mono est mauvais, parce que je savais pas mixer de la musique à l'époque. Et depuis, entre les deux, j'ai appris à vraiment mixer de la musique de façon correcte, de façon très structurée. Et maintenant, je me sens prêt. Malheureusement, il faut que je me cale une semaine, je pense, pour tout mixer correctement et tout sortir d'un coup. Mais
ça vaut peut-être le coup, du coup.
Oui, ça vaut le coup, je pense. Mais c'est juste une question de volonté, je pense. Et le problème, c'est que je suis engagé sur d'autres projets, j'ai un petit peu de mal à lâcher le.
C'est toujours le souci. Ouais. Bon, c'est parfait. Je pense qu'on te connaît déjà mieux avec cette longue introduction sur ce que tu étais, qui tu étais. Et puis du coup, on va s'écouter un peu de musique. Hein. Alors le premier morceau que tu nous as amené, je me permets du coup de le présenter. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est Amon Tobin, hein, Kitchen Sink, qui était sorti en 2007 sur l'album Folly Room, un album qui était sorti sur son label de presque toujours, un Ninja Tune. Alors rapidement, avant de débuter le morceau, pourquoi ce morceau? Pourquoi tu l'as sélectionné? Pourquoi tu l'as choisi?
Alors tout d'abord, c'est plus lié à l'album en lui-même. Parce que Folly Room, c'est un album concept où en fait il a utilisé beaucoup de field recording, donc du coup des enregistrements extérieurs qu'il a modifiés, modelés pour créer les morceaux. Et j'ai pris particulièrement Folly Room parce que du coup il y a ce petit côté organique en fait que j'aime beaucoup chez Amon Tobin. Ce fait d'utiliser des sons du réel modifiés qui donne vraiment un cachet particulier à sa musique. Mm-hmm. Et du coup, c'est des sons du quotidien qui deviennent de la musique en fait, et je trouve ça assez sympathique surtout sur Folly Room en fait, parce je sais pas s'il y a énormément de sons synthés, je sais même pas s'il y en a d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de particulier. Quand j'avais découvert ça, ça m'avait pas mal touché parce que le sound design ça me parlait pas plus que ça à une certaine époque, et quand j'ai écouté Amon Tobin, je me suis dit on peut faire ce genre de choses. Ça me rappelait un peu aussi ce que je faisais Diego Stocco. Jay, ça va te parler ça aussi?
Oh oui, ça me parle beaucoup.
Pas moi les gars.
qui utilise en fait quasiment tout ce qu'il a sous la main. Qui va utiliser
une matière sonore. Quoi.
C'est ça, pour faire une matière sonore. Alors Diego Stocco, c'est très percussion. Et c'est vrai qu'Amon Tobin aussi, il y a certaines, notamment celle-ci, notamment ce morceau-là qui a un côté très rythmique en fait.
D'accord. Ce que je propose du coup aux auditeurs, c'est d'écouter tout de suite, sans plus tarder, Amon Tobin, Kitchen Sink. On se passe ce morceau et on revient juste après pour présenter le second et puis continuer à faire notre petite papote. Les Abyssales, deuxième épisode de l'Invité des Abyssales. Va falloir qu'on trouve un nom à ce truc-là parce que c'est vraiment trop long à dire. C'est vraiment trop long à dire au micro. Allez, c'est parti.
Les Abyssales, Abyssales. We'll be right back.
c'était la course. Voilà, à l'instant, dans les abyssales, à Montaubin, Kitchen Sink, alors que la piste revient de nouveau. Je suis désolé, petit problème. Voilà, le temps de reprendre le rythme. Voilà, comme ça. Bon. Ah, c'était... C'est bien, c'est vivifiant ces petites courses-là pendant les pauses. Du coup, j'ai écouté le morceau, mais heureusement, je l'ai écouté avant, donc ça va, je peux un peu quand même en causer. Alors, qu'est-ce que... Tiens, bah Jack, tu l'as pas écouté, le morceau. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup?
J'ai dit à Simon, pendant qu'on l'écoutait, que effectivement, ça s'apparente vachement au travail que peut faire Diego Stocco avec toutes ces enregistrements de field recording qui est utilisé dans la musique. Et je trouve ça vachement bien comme technique, c'est vachement créatif et c'est peut-être un truc que je tenterais en fait.
Le field recordings, pardon, est un genre à part entière, alors qui est souvent apparenté à l'ambiante. D'ailleurs, on en a passé quelques artistes. Mais c'est un genre qui est assez particulier parce que y a des gens qui font des albums avec juste ce qu'ils captent dans la nature. Et puis modifie le son, ça peut être le bruit des vagues, ça peut être en forêt, ça peut être... Et ils font des albums entiers avec ça. On en passera, peut-être qu'on fera même une émission dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécial comme type de musique électronique. Mais c'est presque un genre en fait qui a la naissance même de la musique électronique, parce que si on remonte un peu plus loin dans la création, dans ce qu'était la musique électronique, on peut trouver la musique électroacoustique, oui, qui était déjà une certaine émanation, puisqu'il fallait prendre en fait des choses qui pouvaient entourer le musicien, et qu'il essayait ensuite de transformer ça en signal électrique pour en faire de la musique. Et c'est pour ça qu'on a eu donc les Stackhausen, les Pierre-Henri, les Schoeffer, ces gens qui étaient donc au GRM. Et d'ailleurs, ça me fait marrer, Mitty en parlait de Jean-Michel Jarre. Et du coup, voilà, parce que lui est issu du fameux groupe de recherche musicale, hein, le GRM. Ouais. Je revenais sur ça parce que j'ai entendu le fait que Jean-Michel Jarre n'était pas assez, ne faisait pas assez star de la musique ou je sais pas quoi, parce que bon, s'appeler Jean-Michel, c'était quand même assez particulier. Et j'avais répondu comme ça, mais oui, mais c'est un scientifique à la base. C'est qu'il était au GRM, donc bon, c'est pas David Guetta qui était au GRM, quoi. Donc,
c'est
voilà,
pas forcément bon. Très vendeur.
Pas trop, non. Non, c'est vrai.
Jean Lamiche.
Jean Lamiche, bon. Et donc, du coup, musique électro-acoustique. Alors, bon, c'est une émanation qui est quand même assez lointaine, hein. C'est plus tout à fait la même chose. Mais moi, en tout cas, je la rapproche à ça. C'est vrai que c'est un univers assez particulier. Et en tout cas, on fera découvrir un de ces quatre aux éditeurs. Il y a plein d'albums très intéressants. Il y a un label d'ailleurs qui s'appelle Silent Season, qui est un label canadien, qui fait pas mal de choses dans ce style-là. Mais bon, voilà.
Je suis très preneur de découvrir ce genre de choses, c'est vrai que je connais plus via Montaubin ou Diego Stocco, mais c'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai pu eu l'occasion d'écouter plus que ça en dehors.
Après, si on tape dans la musique concrète, Pierre Schaeffer, c'est pas... Je veux dire, à l'époque, ça remonte quand même aux années 50, je crois, un truc comme ça.
C'est ça, 50-60.
Et du coup, je dirais pas que c'est dégueu, mais c'est pas spécialement agréable à écouter, en tout cas en ce qui me concerne. Mais
c'est un peu plus particulier.
C'est vrai que c'est assez particulier, c'est de la recherche sonore.
C'est
donc,
ça.
Il faut bien imaginer que la musique électronique, en tant que ce qu'on connaît, c'est-à-dire un beat après l'autre, ce que malheureusement le grand public connaît, n'est pas la musique ni l'émanation qui en a été faite dans les années 50, enfin 40, même 50 et 60. C'est pas tout à fait la même. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu rude. Écoutez, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre,
je veux dire, c'est par rapport à Diego Stocco ou à ces personnes-là qui utilisent les éléments naturels, entre guillemets, ou de ce qu'ils ont autour de nous pour en faire quelque chose de plus, plus structuré, on va dire. Après, je m'y connais pas suffisamment encore dans la musique concrète. Hein, je parle pour les auditeurs. Qui serait tenté de hurler et de m'envoyer un mail et de me massacrer. Si ça se trouve, vous trouverez une structure ou quelque chose de musical dans les travaux de Schaeffer et de, ah, moi, de, Eh bien, je ne sais pas où elle est.
C'est ce qui m'a permis de parler, de théoriser sur la musique électronique.
D'accord.
C'est ce qui m'a permis de trouver un nom, un sens à ce que j'écoutais.
D'accord.
Alors, c'est pas la forme qu'on connaît, parce qu'on a quand même, je pense, une oreille musicale, une oreille éduquée par tout ce qui nous entoure.
C'est ça.
Faut dire ce qu'il est.
Puis c'est une question de sensibilité aussi. C'est
ça. C'est ça. On n'a pas la même perception selon le vécu que l'on a.
C'est ça.
Exactement.
Et selon ce que l'on fait comme écoute, on peut très bien se forger en fait à une musique sur le tard, en comprenant justement les origines et en forgeant son oreille.
Moi, pour prendre un exemple de manière très personnelle, je suis sujet à rêverie à aimer les rêveries, les rêvasseries, partir sur des mondes lointains, ce genre de choses-là. Je vais écouter, de l'ambiance ou justement du field recordings qui va m'aider à partir dans ces univers-là. Je suis pas sûr que quelqu'un qui écoute, une connerie énergie toute la journée, me dise, ta musique, à coup sûr, va me dire, ta musique, c'est de la merde, quoi. Hein, puisque bon, sa sensibilité à lui, ça sera peut-être d'allumer la radio et puis d'écouter ce qu'il y a et danser comme un con en boîte de nuit. Et puis voilà, je caricature volontairement, mais après,
quelle que soit la forme d'art, c'est la même chose. Hein. Il y en a qui préféreront la peinture à la sculpture, d'autres qui préféreront le cubisme à l'art contemporain.
Exactement.
Les goûts et les couleurs.
Voilà.
Et on peut dire que l'art abstrait, c'est de la merde, et trouver que les peintures de Michel-Ange ou ce genre de choses-là sont extrêmement belles. Et à l'inverse, dire que c'était vraiment de la merde avant et qu'aujourd'hui, l'abstrait, c'est vraiment... c'est la sensibilité de chacun. Ouais.
Et je voudrais juste rajouter un dernier truc pour l'anecdote.
Je t'en prie.
Même moi, par exemple, vis-à-vis de la musique électronique, le fait d'écouter les abyssales, m'a ouvert à certaines formes d'électronique que je n'écoute pas spécialement, mais que j'écoutais via l'émission, parce que je jouais le jeu aussi d'écouter jusqu'au bout ce qu'on me passait dans les oreilles.
Ça, c'est pas facile.
Après, c'est quelque chose que je pense que certaines personnes ne veulent pas forcément faire comme effort ou n'ont pas spécialement envie. Mais c'est quelque chose que j'essaie de faire même vis-à-vis de certains styles. Pour citer un autre style, par exemple le rap, c'est quelque chose aussi que je ne côtoyais pas. Mmh. Et des fois, j'essaie de faire un peu l'effort de tester les choses, juste tester. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est vrai qu'il y a certaines formes d'électronique que vous passiez qui, justement, comme tu parlais tout à l'heure, de boum boum boum, moi le kick à tous les temps, des fois ça me passe au-dessus de la tête et parfois ça marche.
Tu vas être servi.
D'accord.
Je t'en dis pas plus, mais tu vas être vraiment servi là pour le coup. Si
j'attends de voir. Et après, tu vois, je te dis ça, mais sous certaines formes ça peut me plaire, il y a pas de souci. Même moi, des fois, ça m'arrive d'en faire aussi.
Donc, belle digression, ce que je disais. Là, pour le coup, on a bien dérivé comme il faut. D'ailleurs, Jay, on ne l'entend plus, du coup.
Mais moi, je vous écoute.
tu bois nos paroles, c'est ça ?
Je bois vos paroles, exactement, comme la dernière fois.
Ouais.
Sauf que la dernière fois, j'étais malade, mais là, j'ai plus d'excuses.
T'as plus d'excuses du tout, là, c'est fini. Du coup, on va passer au deuxième morceau. Transition toute naturelle et toute trouvée. Et donc, qui est un morceau de... Carbon Based Life Forms, qu'on avait déjà passé dans les abyssales, et ça c'est Montobino aussi, d'ailleurs on l'avait déjà passé, donc c'était le numéro sur les numéro 7 sur les rêves, je crois, je suis pas sûr, hein. Vous m'excusez, j'en ai 17 dans la tête, donc je pense que ça fait quand même beaucoup. Donc qu'est-ce que je disais, Carbon Based Life Forms, et tu nous as sélectionné Hydrophonic Garden. Alors j'ai un amour pour ce groupe-là. Carbon Based Lifeforms, en fait, ils sont partis avec les bandes et donc ils ont quitté le label Ultima Air Records il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont même réédité un de leurs albums de 2010 qui s'appelle, il faudrait que je retrouve le nom. Et donc tu nous as sélectionné Hydrophonic Garden. Alors pourquoi Carbon Based Lifeforms ? Qu'est-ce qui t'attire en fait dans leur musique ? Parce que c'est vrai que là aussi c'est assez particulier, mine de rien.
Notamment sur cet album, c'est vrai que c'est de façon générale, de toute façon c'est un peu leur credo, c'est le côté très très ambiant, très spatial. Il y a un petit côté voyage dans l'inconnu et tout ça. Alors c'est quelque chose d'assez récent, en fait je suis tombé dessus un peu par hasard, et c'est c'est quelque chose que j'aime bien écouter parce que c'est à la fois c'est très calme, mais en même temps on s'ennuie pas. Il y a vraiment il y a de la rythmique un petit peu aussi. Et juste pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté un petit peu rêverie, ouais, qui je pense qui fait un petit peu le qui fait un petit peu son effet en fait. C'est surtout que après ce genre de musique, c'est les choses qui incitent, ouais, à l'imagination. Et comme moi en plus je suis très science-fiction, moi ça me fait penser à plein de choses quand j'écoute ce genre de choses.
Ouais, décidément, je fais pas on fait dans la science-fiction, Jay, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait.
Ah ouais, alors là vous pouvez pas tomber plus science-fiction parce que c'est vrai que moi je suis très axé science-fiction, anticipation.
Du coup, je recherche toujours la personne qui va vouloir adapter la trilogie martienne de Stanley Robinson. De Kim Stanley Robinson. Donc je sais pas si tu connais cette trilogie, Mitty.
Je connais de nom, on en a beaucoup parlé.
Mars la rouge, Mars la verte, Mars la
rouge. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais malheureusement, niveau lecture, je suis très très en retard.
c'est
Mars la bleue, tu veux dire comme Blue Mars.
Alors là, franchement. Voilà.
Ouais.
Je voulais. Voilà, exactement. Bah, ça vient de là. Hein, voilà. C'est aussi simple que ça. Ça vient de là. Non, je suis absolument fan de ces romans. Mais bon, les romans font entre 700 et 800 pages par roman.
C'est costaud. Hein.
C'est costaud.
C'est un challenge.
Et c'est de la hard science-fiction. Donc quelque chose. Enfin, c'est beaucoup, 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 beaucoup de termes scientifiques. Et le mec, tu sens que le mec, en fait, il n'a pas simplement ouvert un bouquin de 50 pages sur Mars. Hein. Tu sens qu'il a carrément été consulté à un gars de la NASA en disant « Bon, maintenant, tu vas me fournir toutes tes informations. Est-ce que ça serait possible ?» Parce que c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment de la lecture que je recommande. Il faut aimer la lecture.
La hard science, ouais, c'est quelque chose que je voudrais découvrir, notamment. Parce que, pour faire un lien avec l'actualité, attention, en ce moment je lis justement le bouquin qui a été adapté au cinéma d'ailleurs récemment, Seul sur Mars.
Seul sur Mars, ouais.
Et c'est vrai que la hard science, c'est quelque chose que je ne connaissais pas spécifiquement, et ça me plaît beaucoup en fait. L'idée d'aller au fond des choses et d'aller jusqu'au fond des principes scientifiques, ça me plaît beaucoup.
Bah, c'est de rendre crédible quelque chose qui nous paraîtrait pas forcément. Vous les avez vus le film d'ailleurs, Jay et Mitty ?
Oui, j'ai vu le film deux fois d'ailleurs.
D'accord. Bon, on est d'accord, il est bon. C'est un bon film.
Hein. Le film est très sympa, même si justement on perd un petit peu le côté scientifique des fois.
Oui.
Dans l'explication, disons.
Oui, c'est vrai que bon.
Après, c'est difficile à adapter, je pense.
J'ai eu les yeux exorbités deux, trois fois.
Pourtant, oui.
Non, c'est pas possible. C'est un genre qui étonnamment. Plaît au public, et en plus, alors parce qu'il y a eu d'autres films, hein, j'en ai un en tête là que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, Interstellar.
Oui.
Où là, le concept est quand même assez, enfin, très ardu, parce que expliquer la courbure de l'espace-temps et le fait qu'un trou noir puisse tordre l'espace, le temps et devenir, et que les grandeurs physiques deviennent infinies à un grand public, je suis désolé, mais. Moi, de manière personnelle, je peux pas. Évidemment, il y a toujours les sentiments, c'est toujours très américain, c'est pas non plus. Voilà. Mais.
Bah, faut que ça reste un film en même temps. Sinon,
oui, voilà.
C'est un documentaire et c'est pas.
Oui, mais ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont il amène ça. C'est-à-dire que tu es quand même. Même si t'es pas de formation scientifique, même si t'as pas fait de science ni quoi que ce soit, t'es quand même capable de comprendre que du coup, lorsque tu passes. À proximité d'un trou noir, rien n'est tout à fait pareil que si tu es sur Terre.
Évidemment.
Donc tu parlais de hard science-fiction, Mitty, et c'est vrai que du coup, c'est assez costaud, mais en même temps, on arrive à comprendre les choses. Donc voilà, c'était ma digression sur la hard science-fiction. Ça, c'est fait. Je parle beaucoup tout seul, en fait, ce soir, j'ai l'impression.
Ah non, puis moi, je te lance sur des sujets aussi, hein, donc je suis fautif.
Bah oui,
tout
je suis désolé,
temps.
Mais du coup, je m'étale, allez hop. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que du coup, on s'écoute Carbon Based Life Forms, Hydrophonic Garden, dans les abyssales. Deuxième épisode de l'invité.
Les abyssales, abyssales. The
Retour du coup dans les abyssales, second épisode de l'invité des abyssales avec toujours Mithy en notre compagnie. On est bien là ce soir à faire notre petite discussion, c'est plutôt sympathique.
Ouais, je trouve ça sympa. Hein. Ouais,
c'est très agréable.
C'est très agréable, mais toutes les choses ont une fin. Évidemment, on va conclure, on va dire les liens habituels, les choses à dire. Alors, Carbon Based Life Form, donc Hydroponic Garden. Alors, pour la petite, entre guillemets, la petite anecdote, donc je parlais effectivement tout à l'heure qu'ils avaient quitté Ultima Records, qui était, entre guillemets, leur label de toujours. Et donc, ils ont repris, en fait, les bandes. Et ils les ont remasterisés en fait. Enfin, ils ont refait en fait le mix, le mastering, hein, tout simplement. Ils ont refait le mastering.
Ah d'accord.
Et ce sont des musiques en fait qui se prêtent énormément. Enfin, il faut avoir une qualité sonore exceptionnelle avec ces musiques-là. Ça n'a pas. Enfin, c'est des musiques qui n'ont pas le droit entre guillemets à l'erreur.
Ah, puis un certain souci du détail.
C'est ça. C'est-à-dire que là où sur un morceau où tu vas en faire un hit, tu vas foutre une compression dégueulasse et de toute façon ça va quand même passer parce que les gens sont habitués, j'ai l'impression que les gens sont en tout cas habitués à écouter ce genre de conneries.
La loudness noire.
Faudrait
j'ai mal prononcé malheureusement.
Non mais il faudrait qu'on en parle un de ces quatre de ce truc là. Mais
ça a évolué en plus donc ouais, il y a matière à débat. Hein.
Ouais, beaucoup. Donc c'est pour ça que je te dis, on va peut-être pas le faire ce soir.
Ouais. Parce que c'est... Alors c'est un long débat, mais.
Ouais, mais non, c'est un débat qui est intéressant. Et, donc voilà. Mais je dirais que voilà, il faut avoir le souci du détail pour ces musiques-là. Alors, c'est vrai que tout le catalogue d'Ultima Air Records ne se va pas. Mais j'invite fortement les auditeurs, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, que voilà, Ultima Air Records, c'est une maison que j'apprécie énormément. Parce qu'ils ont des beaux albums, ils ont des beaux objets, ils ont un shop également sur internet qu'il faut aller voir. Ils vendent des objets de musique électronique, ils vendent même en fait des compositions, enfin des samples pour faire votre musique. Alors moi je suis toujours un peu dubitatif sur ça. Le fait de faire de la musique à partir de samples, moi me gêne un peu. Je suis plus dans le truc de me dire je fais ma musique, je compose ma musique, mais je la fais pas à partir de samples. Alors j'ai peut-être tort hein, au final, mais
non, mais c'est un point de vue comme un autre. Hein,
ouais. Je comprends tout à fait ton point de vue. J'avais la même chose moi quand j'ai commencé la musique. Je commençais avec des samples, notamment pour les batteries, tout ça. J'utilisais beaucoup de samples en fait, et j'ai perdu cette habitude au fur et à mesure parce que j'avais l'envie de créer les choses. Et ouais, c'est vrai que maintenant le côté sample, ça me bloque un petit peu des fois. Ouais. Mais on peut faire des choses intéressantes. J'ai vu des gens faire des choses très intéressantes. Évidemment. À partir de samples. Et
Moi, ça serait quelque chose de convenable dans la mesure où le sample, il faudrait qu'il soit énormément transformé avant voilà, de me dire que je puisse l'accepter, de me dire ouais, ok, d'accord, là, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir l'utiliser, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais il faut à ta santé, Jay. Mais il faut beaucoup de. le micro est d'une sensibilité, c'est un truc de malade.
Et donc, j'ai du matos, qu'est-ce que tu veux.
Oui,
ça rend l'émission vivante.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment statique.
Je m'entraîne pour faire la musique field recording.
Ah, c'est ça, tu t'entraînes déjà.
Non, mais les gens prennent tout et n'importe quoi. Hein, je veux dire, tout ça pour dire que ouais, j'aurais du mal quand même. J'ai du mal avec ça, avec ce concept-là. Je préfère créer mes sons et voilà.
Toi qui viens du milieu du rap, c'est quand même assez courant. Le turntablisme, tout ça.
Oui, c'est monnaie courante. C'est même à peu près ça qui a fait que le rap a commencé à exister, puisque c'était des samples de musique rock, musique reggae, ce genre de choses-là. Mm-hmm. Et alors, c'est vrai que ça me dérange pas, bizarrement, quand c'est du hip-hop. Comment te dire ça ? C'est-à-dire que dans la musique électronique, pour moi, est plus particulier dans le sens où tu dois créer quelque chose à ton image, à toi. une nappe sonore, par exemple, si c'est créé par quelqu'un d'autre, même si elle te plaît, c'est toujours créé par quelqu'un d'autre quand tu l'écoutes. Quelque chose qui est créé par toi, elle a ton âme, elle a ton esprit, elle a ta patte, elle a ton truc à toi.
Il y a un côté très personnel. Ouais.
Exactement. Mmh. Du coup, le fait que... C'est très bien ce qu'ils font, Ultima et Records. Au contraire, il y en a d'autres en plus qui le font. Et c'est pas le problème. C'est très bien ce qu'ils font. Mais le truc, c'est que du coup, j'aurais trop l'impression... Ça se dit pas, j'aurais l'impression du coup de me dire mais j'ai la patte de, je sais pas, alors celui qui crée ça s'appelle AES Dana par exemple, parce que c'est le patron du label, et j'aurais trop l'impression de me dire voilà, c'est la patte de AES Dana, et du coup ça me dérange un peu quand même d'utiliser, même s'il m'a autorisé, mais ça me dérange un peu quand même, quoi. Voilà, c'est pas mon âme, c'est pas ce que j'ai mis dedans.
Ouais, je comprends. Ouais.
Que le rap, il a ceci de plus particulier que alors on va à l'émotion dans le même sens, ça reste de la musique, mais c'est quelque chose dont je sais pas, je me suis moins en fait posé la question. Je peux utiliser des samples et ça me dérange pas, quoi, au final. À la limite je m'en fiche, quoi. Je l'utilise comme étant une matière sonore. Voilà, c'est ça.
Par extension, c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi par rapport, par exemple, pour les producteurs. Je pense notamment à Danger Mouse. Qui a produit énormément de...
Ouais,
c'est un très gros producteur. Ouais, ouais. Et il a un petit côté très pop, en fait, dans son approche, même s'il fait un peu de tout. Et je vois, par exemple... c'est pas possible. J'ai mangé le nom, malheureusement, du groupe. Ça va pas moins venir, mais c'est un groupe qui vient du blues à l'origine. En fait, c'est du blues rock qu'ils font. Les Black Keys, voilà.
Ah,
ça n'a rien à voir avec les Abyssales, bien sûr, c'était pas électronique.
Non, c'est juste pour faire
le parallèle. Leurs albums, en fait, étaient très, du coup, très, très bruts. Avant, il y avait un petit côté roots, garage même, un petit peu. Et Danger Mouse a produit un de leurs albums, qui s'appelle El Camino, et on ressent énormément la patte du producteur dessus, clairement, en fait. Et ça me fait un peu se penser à ça, ce que tu étais en train de dire.
Tu cites Danger Mouse, il y en a un qui, pour revenir au hip-hop, qui tout de suite me parle, c'est Timbaland. Qui lui a. Alors, quand il avait produit l'album de. Je crois, il y avait Justin Timberlake, il y avait Madonna, il y avait Nelly Furtado, je crois également, a produit. Et on a la patte du producteur, quoi. Là, c'est immanquable, quoi. Enfin, il y a eu avant ça, je crois qu'il y avait eu, il y avait eu Alia, la fameuse Alia. Donc il y a eu pas mal de choses. Enfin, on sent que de toute façon, il y a voilà, c'est Timbaland et c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Donc,
Vrai que ça, ouais. En dehors du fait d'utiliser le matériel, ça c'est par rapport à l'anglais, je veux dire, du fait d'utiliser des créations d'autres, des fois il y a aussi ça qui rentre en compte. Enfin, moi par exemple, ça m'avait frustré, en fait. J'aime bien ce que fait Danger Mouse en tant que producteur. Sur les Black Keys, ça m'avait frustré parce qu'on perdait le côté roots. Et c'était pas du tout le même genre, la même forme.
D'accord.
Et après, ouais, j'ai un peu le même avis que toi sur les samples. À partir du moment où c'est modifié, qu'on s'approprie le matériel utilisé, là je veux bien. C'est vrai qu'après je suis un peu plus restreint, enfin, d'un niveau personnel. Moi je me permets pas d'utiliser un sample en brut comme ça. Il faut vraiment que je modifie les choses.
Voilà, il faut énormément modifier les choses. Donc c'est en cela que ça me dérange, pour en tout cas pour la musique électronique, qui peut-être aussi me procure plus d'émotions que du rap. Ça c'est sûr, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain. Ça me procure plus d'émotions, donc peut-être que je m'en fiche plus quand c'est du hip-hop, et que je m'en fiche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins quand c'est de la musique électronique, où là, oui, il faut créer de A à Z et essayer de pas non plus aller chercher... Alors, on peut toujours aller faire piquer un petit sample, mais qui sera pas utilisé d'une manière mise en avant, quoi. Il peut être mis en arrière, ou comme élément sonore, ou comme élément de décoration.
Ou alors, énormément, avec un arrangement très, très important à côté aussi.
Voilà. Ouais.
Et c'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, en fait. C'est...
Exactement, ça se contrôle.
Il y a des personnes qui vont énormément adorer ça et d'autres qui vont pas aimer, quoi.
Ouais, tout à fait. Et Jay, il en pense quoi dans tout ça?
Oula, qu'est-ce que j'en pense?
Quand toi, par exemple, quand tu veux faire une musique pour une de tes sagas MP3, alors je sais que tu avais fait appel à François TJP pour une de tes musiques sur Red Look, hein, il me semble.
Oui.
Enfin, même quand tu composes des musiques, qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce que c'est toi qui avais composé toutes tes musiques sur la saga MP3? Alors, attends. comment elle s'appelle cette saga, je l'ai écouté il y a pas si longtemps, je me perds dans mes mots, comment elle s'appelle, Velvorn sous ton pseudo là,
Velvorn, alors oui, alors Velvorn c'est pas moi du tout, c'est Arnaud Condé,
oui.
Mais c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de talent,
oui.
Et on a une certaine compatibilité entre ce que moi je veux et ce que lui est capable de produire.
Mmh.
Et c'est un peu comme ça que je fonctionne quand j'ai pris François TJP, parce que je sais qu'il a une certaine patte musicale, une certaine ambiance dans l'utilisation de ses instruments, dans sa manière d'arranger tout ça, qui correspond à une ambiance que j'ai envie de donner dans mes histoires. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Il faut savoir qu'au tout départ, moi, j'utilisais beaucoup de musique libre de droit, notamment une bibliothèque de quelqu'un qui s'appelle Kevin MacLeod.
Ah, le fameux MacLeod. C'est qui, ce mec? Expliquez-moi une bonne fois pour toutes qui est ce
Kevin MacLeod, du clan MacLeod.
Du clan MacLeod. Kevin MacLeod, c'est un musicien qui met sur Internet à disposition de la musique, des morceaux instrumentaux, essentiellement. Il en a une bibliothèque monstrueuse. C'est complètement libre de droit et c'est destiné aux illustrateurs sonores, on va dire.
Okay. Voilà. Sa librairie de musique est très impressionnante.
Elle est extrêmement impressionnante.
Et tout est sur Internet ou
tout est disponible sur incompetech.com.
D'accord. Voilà, ouais. Je vous entends parler de ça à chaque fois et ça me saoule parce que je sais pas qui c'est.
Et ça m'étonne encore d'ailleurs parce que c'est quelque chose que certains utilisaient à une certaine époque et c'est très d'utilité de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui piquent là-dessus. Même. Je vois par exemple même des youtubeurs utilisent ça par exemple pour les fonds de vidéos et c'est vrai que maintenant il a vraiment une réputation
D'accord, Incompetech, oui, je viens de trouver le truc, okay.
Et on en retrouve beaucoup sur internet, sur des sites très connus, je pense à jeuxvideo.com.
Oui, effectivement.
Les chroniqueurs, donc je pense à Maxime Robinet qui fait le fond de l'affaire, le générique du fond de l'affaire que tout le monde connaît si tant est que vous regardez Le Fond de l'Affaire, qui est une chronique sur jeuxvideo.com.
Je ne fréquente pas ce site.
Je
risque d'être méchant et violent avec eux, donc je préfère.
En fait, le générique du Fond de l'Affaire, c'est du Kevin MacLeod.
Ah d'accord, tu vois, ça, j'ignorais ça, tu vois.
Ouais, ce petit morceau sympathique au piano.
D'accord.
Entraînant. C'est lui. Et il se trouve que donc cette
comment ça s'appelle, Robinet, c'est ça,
Maxime Robinet, c'est Le Fond de l'Affaire.
D'accord. Bon, je connais pas, je suis désolé. Bon, vas-y, continue du coup.
Oui, donc pour en revenir à mon histoire, ce type classe ses musiques par soit par style musical, soit par émotion. Par exemple, dark, dangerous, emotional, love. Voilà, donc si vraiment on veut illustrer quelque chose, par exemple une musique, si on cherche une musique triste, on va taper sad dans la barre de recherche, et on va tomber sur une liste monstrueuse de morceaux, de chansons tristes avec du piano, du saxophone, enfin ce genre de choses. C'est même classé par film d'horreur ou film policier, voilà, c'est vraiment adapté pour tous les créateurs de contenu, en fait, qui veulent utiliser la musique libre de droit et qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer des licences musicales ou même pouvoir faire leur musique eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que c'était très, très, très général, on va dire. C'est bien pour faire une ambiance générale, sauf que moi, dans mes fictions, quand j'ai une émotion à faire passer, j'ai envie que ce soit précis, j'ai envie que ce soit adapté à la scène que je fais, que je construis. Et du coup, soit je vais me débrouiller comme je peux pour composer moi-même, soit je vais entendre quelque chose et ça, je vais me dire ça irait bien dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je suis en train d'écrire, et je vais contacter la personne en question. C'est ce qui s'est passé pour François, que j'avais découvert grâce à l'appartement.
Ouais. Oui, le fameux sac. Non, c'est un mono, ouais.
C'est une série.
Excuse-moi, autant pour moi. Mais effectivement, c'est une série.
Et j'ai trouvé que cette ambiance musicale était très, très, très sinistre, très glauque, mais en même temps très. très, je sais pas comment, très organique en fait. Mmh. Voilà, moi, quand j'écoute de la musique, j'ai souvent des images, et quand j'écoutais l'appartement et la musique de l'appartement, j'avais, je sais pas pourquoi, des images de papier peint décrépit. Voilà, comme ça que je voyais les choses, et je trouvais ça vachement, vachement sympa, et du coup, j'avais besoin de ce type d'atmosphère musicale que François TJP sait très bien faire pour l'intégrer dans mon histoire, et c'est comme ça que je fais, et c'est aussi comme ça que je compose. Maintenant, j'utilise pas de, ou alors très peu de samples, sauf s'il y a vraiment un son particulier que j'ai envie de faire. Mais ce que je fais en général, c'est que je regarde, enfin j'essaie de comprendre comment ce son a été fabriqué. J'essaie de le fabriquer. Si j'y arrive, bah tant mieux, et puis je vais prendre mon son. Si vraiment j'ai du mal, ou que j'ai pas les bons outils, ou que j'y arrive pas, ben je vais me permettre une petite entorse, et puis je vais sampler.
D'accord. Alors je sais pas si vous l'entendez derrière, il y a, messieurs, il y a du Kevin MacLeod, justement, on parlait de Sad. Je sais pas si vous l'entendez un peu, ou
oui.
D'accord, ok. Donc voilà, depuis tout à l'heure, j'ai mis un peu de Sad, justement, où tu parlais, il le classe par émotion, et c'est vrai que du coup, on retrouve ces choses-là, quoi. Bah écoutez, belle explication, en tout cas, merci Jay pour ton explication sur comment tu choisis ça. Et puis bah du coup, je pense qu'on va décemment conclure sur tout ça. Alors déjà, en rappelant, alors Mithy déjà, merci à toi de nous avoir fait profiter de tes musiques. Alors c'est pas terminé, puisque du coup je t'ai permis d'en sélectionner une troisième, qui pour le coup là je vais te laisser présenter, voir, et puis on va terminer complètement sur ça. Alors dis-moi ce que tu nous as sélectionné pour la troisième musique.
Bah, avant tout, je voudrais quand même vous remercier de m'avoir invité.
De rien.
Ah bah c'était cool.
Non, c'était très... On a digressé, beaucoup.
Oui, très, mais c'était très agréable. C'était, ouais. Je serais bien tenté de revenir un de ces quatre.
Ah ben, t'es invité quand tu veux. Si tu veux faire même les Abyssales, une émission des Abyssales, tu nous le dis, tu nous contactes, et puis on verra ce qu'on pourra faire, éventuellement sur du Fine Recordings. Par contre, j'ai un peu peur, parce qu'une émission des Abyssales dure, allez, entre 1h30 et 2h selon le contenu. J'ai un peu peur de passer sur le 3h.
C'est dangereux.
Ouais. C'est très dangereux.
Mais pourquoi pas.
Non, mais au contraire.
Oui. Et donc, ouais, je suis un tricheur, j'ai une troisième musique.
Oui.
C'est très dur de faire un choix, il y a tellement de choses. Donc, j'ai sélectionné un petit truc particulier, c'est du Yoshi Horikawa. Mm-hmm. Donc, c'est le morceau Skipping, qui est issu de l'EP Touch, qui est sorti en 2010. Mm-hmm. Qui est un petit EP assez intéressant, donc encore une fois on retombe un petit peu dans le field recording, et en même temps avec des ajouts d'électronique un peu typé down tempo. Et ce qui est intéressant sur Skipping, c'est que si j'ai bien compris, il a enregistré son fils qui est en train de jouer à la corde à sauter, et à partir de ça il fait une petite musique très cool, enfin qui donne envie de bouger la tête un petit peu. Et c'est très sympathique. Enfin, j'étais tombé dessus un peu par hasard là-dessus. Et j'avais trouvé ça très très chouette. C'était un petit coup de cœur. Je m'étais pris l'EP dans la foulée.
D'accord.
Et du coup, voilà, j'avais mis ça en petit bonus parce que elle est assez chouette.
Eh bien, écoute, on va tout simplement conclure l'émission sur ce bonus.
C'est marrant parce que la dernière fois, François TJP nous a ramené un artiste japonais. Toi, c'est la même chose, du coup, c'est rigolo.
Pour le coup, je connaissais aussi l'artiste japonais qui avait... et je me demande si je l'aurais pas ramené s'il l'avait pas fait.
Décidément. Ce petit monde. Donc voilà, on va conclure dessus. Alors, juste pour rappeler, Mithy, donc il y a ta page sur le Netophonix, hein, ça on l'a dit tout à l'heure.
Oui. Ah oui, là c'est le moment où tu peux lâcher tes liens. Là.
Ouais.
Le problème c'est que c'est un peu compliqué de me retrouver.
Il y a ton compte SoundCloud déjà. Bon,
voilà. Il y a mon compte SoundCloud. Ouais. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est mon ancien pseudo, c'est Mitter Alon, malheureusement. Ouais. Ça changera peut-être quand je pourrai le faire sur SoundCloud. J'essaierai de faire ça un de ces jours.
Alors je sais pas si c'est ce que je lis est vrai, mais je crois qu'on est dans la même région, Mithy.
Ah, peut-être.
Est-ce que on peut, enfin, est-ce que tu peux dire où est-ce que tu habites actuellement?
Actuellement, je suis au niveau du Mans.
D'accord, mais moi je lis sur la fiche en face de moi Brest.
Ah, effectivement, non, j'ai passé 3 ans à Brest, mais malheureusement j'en suis parti maintenant.
D'accord.
Parce que je suis originaire du Mans, je suis un Sartois pur souche, pas pur souche, parce que malheureusement j'ai des racines vendéennes.
Pourquoi malheureusement?
Non, je dis malheureusement, non.
Oh, c'est, ce
non.
Tacle, elle est là.
Je devrais pas dire malheureusement, d'ailleurs, je suis
nous
très fier d'avoir des racines vendéennes.
Il nous faudrait le bruitage de Knarf là. Malheureusement.
Non, en fait, c'est surtout que en fait, je suis le seul de la famille à être Sartois, en fait, à être né en Sarthe. D'accord. Okay. C'est pour ça que je dis ça en fait.
Okay, d'accord.
Je fais tâche dans la famille.
Oh, parce que j'allais te dire, on est je suis breton, donc je suis en Bretagne, donc c'est pour ça. D'accord, mais on n'est pas si loin que ça, hein, le Mans.
Et du coup, on n'était pas si loin que ça parce que j'ai passé 3 années à Brest.
D'accord. Ok. D'accord.
Donc c'est pour ça, du coup, ça doit être encore noté à Brest, mais j'ai quitté Brest il y a 6 mois.
Ça. C'est exactement ça. Donc c'est soundcloud.com/mythearalon, mais ça sera marqué dans l'article.
Oui, c'est plus simple de le copier-coller que de l'écrire.
Voilà, exactement.
Ça changera quand je pourrai le faire pour passer à Mythi ou quelque
donc
chose comme
on
ça.
Donc on peut retrouver en fait toutes tes créations. Hein, exactement.
Oui.
Toutes tes créations.
Musicales, il y a quelques petites previews aussi sur XLE. Ouais. Aussi. Mmh. Et le plus simple aussi pour m'en trouver, c'est donc sur. Là où je suis le plus actif en ce moment, c'est surtout Twitter, parce que là, il y a tous mes liens, il y a tout ce qu'il faut.
C'est ça. Ouais.
Donc, c'est @voxograph.
Oui, exactement.
Et voilà. Et prochainement, il y aura un site pour Static. Sachant que Static, on peut aussi le retrouver sur SoundCloud.
Oui, sur SoundCloud. Ouais.
À partir de ma page NotoWiki, c'est plus simple.
Non, mais je mettrai carrément le player dans l'article. Comme ça, les gens pourront écouter ton mono qui est fort sympa. Si vous avez 16 minutes à tuer, bon, voilà, il n'y a vraiment pas de danger. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Jay, toi, c'est @dramadiffusion sur Twitter, bien entendu.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Sur Facebook également. C'est pas Drama Diffusion, mais c'est sous ton vrai nom. Et comme je l'ai répété dans Les Abyssales, le 18e épisode là, qui est sorti en même temps que normalement celui-là, faudra lire la page à propos pour savoir un peu plus.
Pour me trouver sur Facebook.
Voilà, exactement. Puis moi-même, @r_redscape. Aussi sur SoundCloud. Alors toi aussi, t'as un SoundCloud, Jay. Hein,
oui, soundcloud.com/dramadiffusion.
Voilà, exactement. Et puis évidemment, tes créations sur Audio Dramax. Et puis on te retrouve surtout dans le podcast Les Sondiers, bien entendu, tu auras fait beaucoup de podcasts là, je crois.
Oui, ouais, là c'est cette semaine, j'enchaîne.
C'est freestyle. Voilà, et puis évidemment dans Les Abyssales de manière permanente, puisque tu as remplacé mon très cher coéquipier Aldevar, que je salue bien entendu. Comme
et que je salue aussi.
Fois. Voilà. Mythi, ça a été un réel plaisir de t'avoir. Quand tu veux, si tu veux revenir dans Les Abyssales.
Plaisir partagé, et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
Bon, et ben voilà. Tu le sais maintenant. Surtout que c'est parti un peu de rien du tout. Hein. Mais voilà, je fonctionne comme ça, moi. Je suis à l'instinct, j'aime la personne cause avec moi. Ok, bon, on peut faire un truc. Même si on se connaît pas, c'est pas grave. Ça permet de découvrir d'autres univers.
La magie d'Internet.
Exactement. On se retrouve pour le 19e épisode des Abyssales le mois prochain, en janvier 2016, l'année prochaine du coup, pour le 19e épisode et pour le 3e épisode de l'invité des Abyssales, puisque vous le savez maintenant, c'est une émission qui revient de manière mensuelle. En tout cas, profitez bien de ces deux émissions, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant qu'il n'y ait pas un autre événement qui vienne clôturer cette année, ma foi, fort glauque. Jusqu'au bout des ongles, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Salut les amis, Jay, Mythi, bonne soirée à vous.
Salut à tous,
ciao.
Allez, bisous.
ボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタンを切ろうとしてボタン
Les abyssales.